chemin, pour la lumière que tu mets sur le chemin, afin que nous ne nous perdions pas. Seigneur, je te prie maintenant pour que nous sachions prendre bénéfice de la parole qui va être annoncée. Amen. Alors aujourd'hui, je pense que ça n'a pas échappé à personne, peut-être, c'est que la semaine prochaine, c'est Pâques. Bon, donc la semaine qui précède Pâques, c'est une semaine pour Jésus qui a été, le moins que puisse dire, très occupée. Hein? Et aujourd'hui, nous fêtons dans toutes les églises du monde, hein, c'est ce qu'on appelle la fête des rameaux. Hein? Bon, donc je vais parler un petit peu de ce texte-là et nous allons le lire. Alors, pour bien faire, je me suis rendu compte que quelquefois, on lit un passage d'un chapitre et puis on ne se fait pas quelquefois le rapprochement avec ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. Bon, je ne vais pas lire le chapitre 19 de l'Évangile de Luc en entier parce que ce serait un petit peu trop long. Mais je parlerai quand même un tout petit peu après de ce qu'il y a avant. Je lirai simplement dans Luc chapitre 19, à partir du verset 28. Après avoir dit cela, bon, donc je dis, hein, puisque c'est après avoir dit cela, ça veut dire que ce qu'il a dit avant, ça a quand même une importance, et j'y reviendrai plus tard. Après avoir dit cela, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagé et de Béthanie vers la colline appelée Mont des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel personne n'est jamais encore monté. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous ?», vous lui répondrez simplement « Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent « Pourquoi détachez-vous l'ânon ?» Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin. » Et ils amenèrent l'ânon à Jésus. Après avoir jeté leur manteau sur son dos, ils firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Déjà, il approchait de Jérusalem, vers la descente du Mont des Oliviers. Alors toute la foule des disciples, remplis de joie, se mirent à adresser à haute voix des louanges à Dieu pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit le nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Du milieu de la foule, quelques pharisiens dirent à Jésus « Maître, reprends tes disciples. » Il répondit « Je vous le dis, si eux se taisent, ce sont les pierres qui crieront. » Quand il approcha de la ville et qu'il la vit, Jésus pleura sur elle et dit « Si seulement tu avais toi aussi reconnu aujourd'hui ce qui peut te donner la paix. Mais maintenant cela est caché à tes yeux. Des yeux viendront pour toi où tes ennemis t'entoureront d'ouvrages fortifiés, t'encercleront et te serreront de tous côtés. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où tu as été visité. » Jésus entra dans le temple et se mit à en chasser les marchands. Il leur dit, « Il est écrit, mon temple sera une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Il enseignait tous les jours dans le temple. Les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi et les chefs du peuple cherchaient à le faire mourir, mais ils ne savaient pas comment s'y prendre, car tout le peuple l'écoutait, suspendu à ses lèvres. Bon, simplement une petite chose, Jean-Yves m'envoie un mail, oui. Un mail sous forme de papier. Alors Virginie, hein, s'est fait opérer vendredi. Hein. Bon, elle est en convalescence chez elle. Bon, est-ce que ça va bien, Michel? Bon, prions aussi le Seigneur pour que cette convalescence s'opère complètement, hein, qu'elle nous revienne guérie complètement et en pleine forme. Amen. J'en reviens au passage que je viens de lire. Tout le peuple l'écoutait, était suspendu à ses lèvres. Bon, c'est le dernier verset que j'ai lu. Et je ne peux pas m'empêcher d'être interrogatif quand même. C'est que quelques jours plus tard, à peine 8 jours après, quand Pilate pose une question au peuple, après que Jésus ait été arrêté, est-ce que vous voulez que je libère Jésus ou est-ce que vous voulez que je libère Barabbas ? Et le peuple a crié Barabbas, Barabbas, Barabbas. Alors j'aimerais quand même essayer de comprendre. Je ne sais pas ce que vous auriez fait si vous aviez été à la place du peuple en entendant la question de Pilate. En ce qui me concerne, j'aurais hurlé Jésus au point de me faire péter les cordes vocales. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais en tout cas, moi, c'est ce que je pense. Alors, on pourrait dire ce ne sont pas les mêmes qui ont crié Barabbas que ceux qui ont acclamé Jésus quand il montait vers Jérusalem. Malheureusement, pas si sûr. Pas si sûr. Parce que si, je répète ici, si tout le peuple l'écoutait, était suspendu à ses lèvres, et les prêtres, il dit, cherchaient à le faire mourir, mais ils ne savaient pas comment s'y prendre. Ils ne savaient pas comment s'y prendre parce que justement, le peuple était suspendu aux lèvres de Jésus. Alors comment se fait-il que dans ces conditions-là, quelques jours après cet événement-là, la foule crie « Barabbas, Barabbas, Barabbas ». Il y a quand même un problème, non ? Une grande partie de ceux qui ont quitté Barabbas faisait partie de ceux qui avaient acclamé Jésus quand il était monté sur son âme, montant vers Jérusalem. Alors, je voudrais essayer de comprendre. Alors, comme je le disais tout à l'heure, avant le passage que j'ai lu dans le chapitre 19, il y a d'autres choses qui sont dites dans le même chapitre. Au début du chapitre 19, on nous parle de Zachée. Jésus avait traversé Jéricho et il y avait aussi une foule qui désirait voir Jésus. Et Zachée, qui était un homme de petite taille, était monté sur un arbre pour essayer de le voir. Et finalement, bon, Jésus ayant vu Zachée, il l'a fait descendre de son arbre et lui a proposé de rentrer chez lui. Et voilà que Zachée, ayant été touché par le message de Jésus, il dit ceci. « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Alors Jésus dit à son propos, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Comme la foule écoutait cela, je dis bien, comme la foule écoutait cela, écoutez ce que Jésus venait de dire. Il venait de dire à Zachée que le salut était entré dans sa maison. Comme la foule écoutait cela, il ajouta une parabole. Lisons la parabole, tout au moins le début. Il était près de Jérusalem. Pardon, excusez-moi. Avant de dire la parabole, il dit, comme la foule écoutait cela, Jésus ajouta une parabole. En effet, il était près de Jérusalem et on croyait que le royaume de Dieu allait apparaître immédiatement. Jean croyait que le royaume de Dieu allait apparaître immédiatement. Ils ont cru ça après avoir entendu la parole de Jésus à Zachée qui disait « Le salut est entré dans ta maison ». Alors Jésus dit cette parabole. Il était près de Jérusalem et on croyait... Bon, pardon. Un homme de haute naissance partait dans un pays lointain pour se faire désigner roi et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur remit 10 pièces d'or et leur dit « Faites-les fructifier jusqu'à ce que je revienne. » Cependant, ses concitoyens le détestaient et lui envoyèrent une délégation après lui pour dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur lui. » C'est quand même curieux hein, qu'il parle de cette parabole. Les gens qui avaient écouté Jésus parler croyaient que le royaume de Dieu allait s'installer immédiatement. Et Jésus, en réponse à cette pensée, leur fait appel, leur dit cette parabole. Le roi dont il est question ici était détesté par le peuple. C'est quand même curieux, vous ne voyez pas hein, que Jésus choisit ce moment-là pour parler de cette parabole-là. Alors que voulait-il dire? Je pense que les gens qui écoutaient Jésus se sont trompés à son sujet. Le salut est entré dans la maison de Zachée. Pourquoi? Parce que Jésus avait mangé avec lui. Mais Jésus est allé aussi chez des pharisiens. Il a mangé aussi chez des pharisiens, il a mangé chez d'autres gens. Et quand il est allé chez ces gens-là, il n'a pas dit à ces gens-là, le salut est entré chez toi. Il n'a pas dit ça. Mais à Zachée, il l'a dit. Bon, donc si le salut est entré dans la maison de Zachée, c'est pas parce que Jésus est entré dans sa maison et qu'il a mangé avec lui, mais c'est parce que Zachée a dit ce que je vais lire tout à l'heure et que je répète, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Zachée a fait une repentance magnifique. Et c'est parce que Zachée dit ça que Jésus lui dit que le salut est entré dans sa maison. Ça n'était pas simplement parce qu'il allait être à table avec lui à partager un repas. Je crois que c'est une chose qu'il faut comprendre. Et si j'en viens à la parabole hein, que Jésus dit. Qu'est-ce que le roi demande? Il a donné une pièce d'or à 10 de ses serviteurs et il leur demande de la faire fructifier. Mais ça ne leur plaît pas parce que la plupart des gens veulent tout recevoir gratuitement. Ils ne sont pas prêts à faire le moindre effort. Ils ne sont pas prêts à entendre l'appel à la repentance. Ils ne sont pas prêts à l'entendre. Alors, quand ils entendent quelqu'un qui leur dit qu'ils doivent se repentir de leur péché, ça leur est désagréable à leurs oreilles. Alors, et le roi en question devient quelqu'un qu'ils n'aiment pas ou qu'ils n'aiment plus, ou tout au moins qu'ils aiment moins. Et c'est ça, je crois, le problème. Les gens qui avaient écouté le discours de Jésus s'attendaient à ce que le royaume de Dieu s'installe immédiatement, sans effort de leur part. Tout allait tomber du ciel et voilà, tout d'un coup, ils allaient être bénis, etc., etc., etc. Vous savez, en politique, on a vu ça hein, régulièrement. Quand on élit quelqu'un de nouveau, bon, la personne nouvelle suscite un certain enthousiasme. Mais quand on s'aperçoit que finalement, le personnage en question n'est pas capable d'offrir à tout le monde ce qu'il désire, tout d'un coup, il devient beaucoup moins populaire. Vous savez, actuellement, nous sommes en train de vivre une période d'agitation, et on le voit bien. Mais ce n'est pas spécifiquement au président Macron. Hein. C'était pareil pour les précédents. Hein. En 81, président Mitterrand avait promis beaucoup de choses et il y a tout un tas de gens qui s'imaginaient que la poule aux œufs d'or allait arriver. Hein. En 81, c'était comme ça. Sarkozy, idem. On a haï Mitterrand, on a haï Sarkozy, on a eu Hollande. Même chose. Après, bon, on ne voulait plus ni Hollande ni Sarkozy, on a maintenant Macron. Vous croyez que ça va changer quelque chose? Non. Pourquoi? Je ne suis pas en train de faire de politique. Je ne suis pas en train d'approuver ni de désapprouver le président actuel. Mais je dis simplement, c'est que les hommes attendent trop de celui qu'on a placé à la tête du pays. Ils en attendent trop. Et ils s'imaginent que le royaume de Dieu va s'installer tout de suite parce qu'on a élu un nouveau personnage, et ben voilà. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Parce que si on veut que le pays aille mieux, il ne suffit pas d'élire un bon président, mais il faut aussi que le peuple fasse des efforts. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, dit le Seigneur, s'humilie, prie et me cherche, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, j'effacerai son péché et je guérirai son pays. Ce n'est pas marqué si j'ai élu un bon président. Ce n'est pas écrit ça. Hein. On est bien d'accord. Hein. Si mon peuple s'humilie, prie et me cherche, s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors je guérirai son pays et j'effacerai son péché. Ah, mais ça, c'est un discours qui plaît beaucoup moins. Vous comprenez? Alors, j'en reviens à Jésus. Quand Jésus a tenu ce discours, le salut est entré dans sa maison, les gens s'imaginaient que Jésus allait prendre le pouvoir, hein, qu'il allait se faire nommer roi, et que tous leurs problèmes seraient tout d'un coup résolus. Ce serait magnifique. Or, ce qui s'est passé, c'est quand il est rentré à Jérusalem, il s'est fait arrêter. Alors vous imaginez la déception de certains. Et c'est pour ça qu'un certain nombre, même parmi ceux qui avaient crié « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », eh bien, ils n'étaient plus capables de crier « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et quand Pilate leur a demandé « Qui voulez-vous que je libère ?», ils ont dit « Barabbas ». Parce qu'ils étaient déçus. Même Judas. Bon, ça, c'est moi qui le dis. Hein. Bon, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole, mais j'ai une petite idée sur la question. Pourquoi Judas a-t-il livré Jésus? Moi, j'ai tendance à penser aussi que c'était un petit peu pour le forcer. Parce que Judas avait vécu en présence de Jésus. Il avait vu qu'il avait fait des miracles. Il les avait vus. Je pense qu'il était persuadé, lui, que Jésus était le Fils de Dieu. Je pense qu'il en était persuadé. Mais il souhaitait, comme la plupart de ses contemporains, que Jésus prenne le pouvoir et balaye d'un revers de main les Romains et installe rapidement, immédiatement, le royaume de Dieu dont il est question ici. Alors, en quelque sorte, le faire arrêter, c'était un peu lui forcer la main. Il dit, il va quand même pas se laisser arrêter. Il va quand même pas se laisser crucifier. Il va réagir. Il va faire enfin ce que j'attends. Il va pas se contenter de nous faire des discours en disant qu'il faut se repentir. Il va faire quelque chose. Enfin, en tout cas, c'est pas sûr. Hein, ça, c'est l'opinion que j'ai. Hein, mais peut-être que finalement, dans l'idée de Judas, il y avait de ça. Hein, c'est-à-dire que je vais essayer de pousser Jésus à réagir et à faire ce que j'attends et ce que le peuple attend. Ce n'est pas ça. Alors, vous savez, en tout cas, je voudrais qu'on réfléchisse un petit peu. Actuellement, il y a aussi des manifestations, et des manifestations qui sont à venir, disons. Bon, pourquoi y a-t-il des manifestations ? Que ce soit celle-ci ou les précédentes ou les futures, c'est toujours parce qu'il y a un certain nombre de gens qui s'estiment victimes d'une injustice ou qui ont des aspirations et qui voudraient être, il faudrait que leurs aspirations soient assouvies. Et ils se font souvent des illusions. On a fait beaucoup de, la France en particulier, c'est un pays qui a connu quand même un certain nombre de révolutions. On s'est imaginé qu'avec la Révolution, on allait changer le monde radicalement et qu'après, le monde serait du coup beaucoup meilleur. C'est vrai que quand il y a une révolution, c'est parce que les gens étaient mécontents d'un certain nombre de choses. Et ça peut être légitime. Je ne dis pas que nous n'avons pas le droit d'être en colère quelquefois contre des situations. Jésus lui-même s'est mis en colère quand il est rentré dans le temple. Il a vu ce qui s'est passé. Il s'est mis en colère. Il a renversé les marchands du temple. On est bien d'accord. Donc il ne s'agit pas de dire que toute colère et tout mécontentement sont illégitimes. Mais ceci étant dit, quand on a dit ça, on fait quoi après ? La Révolution française, bien sûr, c'était une révolte contre un certain nombre de choses. Mais ça a conduit quoi ? Des milliers, voire des millions de morts. La terreur de tout état de gens qu'on a guillotinés pour des raisons pour le moins douteuses. D'autres révolutions, il y en a d'autres. La révolution russe, c'est pareil. C'était au départ pour se révolter contre les abus du régime tsariste. Mais qu'est-ce que ça a donné après ? La Chine, on a eu Mao. Plus récemment, il y a eu le Vietnam ou le Cambodge. Il y a 2 ou 3 ans, discuter un petit peu de ça avec Jean-Pierre Besse. Jean-Pierre Besse, c'est notre ancien pasteur. Il disait ceci, dans les années 70, j'ai crié avec les autres, Phnom Penh est libéré. Ah oui ? Après la libération en question de Phnom Penh, il y a eu quoi ? Il y a le régime de Pol Pot, qui a mis des millions de Cambodgiens dans des situations terribles. La révolution, plus récemment encore, On a voulu intervenir en Irak. On a voulu intervenir en Libye. OK. Le dictateur en Irak et le dictateur en Libye étaient des dictateurs affreux. On est bien d'accord. Ceci étant dit, le régime qui en est sorti après. Vous voyez la situation actuelle. On a résolu le problème, vous croyez ? Je crois que non. Donc, je crois qu'on se trompe. Le royaume de Dieu ne se fabrique pas comme ça. Ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Voilà comment agit le Seigneur. Et nous agissons souvent autrement parce que nous sommes pressés, parce que nous imaginons toujours que le royaume de Dieu est pour tout de suite et nous sommes prêts à faire des choses insensées pour que les choses arrivent plus vite, mais nous ne comprenons pas que le Seigneur nous demande d'abord de faire des efforts, de nous demande d'abord de nous repentir de nos erreurs, chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, d'abord, et vous verrez que toute chose vous seront donnés en plus. Mais nous, on veut que les choses qu'on désire soient accomplies tout de suite, mais on n'a pas prêt à faire l'effort qu'il faut pour que ça se produise. Je répète encore une fois, ça c'est un message que j'ai toujours eu à cœur et que je répète régulièrement. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche, je l'exaucerai des cieux, j'effacerai son péché et je guérirai son pays. Mais il y a une condition. Ça ne se fera pas tout de suite si moi je ne bouge pas et que je campe sur mes positions. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ce n'est pas le manger et le boire. Ça, c'est le Seigneur qui le dit. Et vous savez, ça n'est pas la première fois que un roi est bafoué, que Dieu lui-même est bafoué. Il y a des passages. Le peuple d'Israël, à un moment, il y avait le gouvernement des juges. Et ils ont voulu avoir un roi. Dans Samuel 1, chapitre 8, versets 5 à 7, il est dit « Établissons-nous un roi comme on en trouve dans toutes les nations ». L'Éternel dit à Samuel, « Écoute le peuple, ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi, afin que je ne règne plus sur eux. » Ils agissent comme ils l'ont toujours fait depuis que je les ai fait sortir d'Égypte. Ils m'ont abandonné pour suivre d'autres dieux. Ça, c'est, on peut dire que c'est l'Ancien Testament. Dans Jean chapitre 6, hein, là, verset 26-27, « en vérité, je vous le dis, dit Jésus, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu lui-même, a marqué de son empreinte. » Jésus dit lui-même que les gens qui viennent à lui ne viennent pas toujours pour des bons motifs. Ils viennent parce qu'ils veulent du pain. Parce qu'ils ont vu qu'après la multiplication du pain, qu'effectivement que certains ont eu du pain gratuitement, moi-même du poisson aussi. Alors, quand on voit ça, il y a des amateurs. Mais Jésus dit, vous êtes venus pour ça, mais ce n'est quand même pas pour ça que je vous ai fait venir. Bien sûr que je vais vous donner du pain. Vous comprenez ? Pas la même chose. Quelle est ma motivation ? Qu'est-ce que je cherche ? Cherche le royaume de Dieu et sa justice. Ah, c'est quoi chercher le royaume de Dieu, justement? Vous savez, ce n'est pas nouveau. Si le peuple d'Israël a demandé à Samuel de leur mettre un roi comme les autres nations, quelle est la caractéristique d'un roi? Les Romains l'avaient bien compris. Ce que veut le peuple, vous savez, c'est quoi? Du jeu et du pain. Du pain et des jeux. Et ce n'est pas nouveau. Si on vous propose à manger facilement et qu'on vous donne le moyen de vous distraire, eh ben tout va bien dans le meilleur des mondes. En tout cas, c'est l'opinion que beaucoup ont. C'est ça le problème. Et Jésus n'est pas venu pour être un roi comme ça. Il n'est pas venu pour ça. Et c'est pour ça qu'il ne plaît pas tant que ça. C'est pour ça que même si le peuple, dans sa quasi intégralité, était écouté les paroles de Jésus, quand Pilate a demandé qu'il devait libérer, il y a une partie du peuple qui s'est détournée de Jésus et qui a dit « Barabbas !» Parce que Jésus n'était pas celui qui allait donner du pain facilement et les jeux. C'était celui qui demandait aussi à l'homme de se repentir. Dans le livre d'Agé, il est dit, vous êtes venu, quand il fallait 50 mesures, vous en êtes contenté de 20. C'est pourquoi j'ai soufflé dessus, dit l'Éternel. Mais amenez à la maison du Seigneur tout ce que vous devez, et j'ouvrirai pour vous les écluses des cieux. Est-ce qu'on entend ce discours-là? Il faut que nous entendions ce discours-là. Alors, le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? La justice de Dieu et le royaume. La justice de Dieu, ça sous-entend aussi un esprit d'équité. J'ai remarqué que ceux qui font des revendications, c'est quand même bizarre. Ils font toujours des revendications qui sont à leurs avantages. C'est-à-dire que je me plains de ce que celui-là gagne plus que moi, mais que l'autre en gagne beaucoup moins, ça ne me dérange pas tellement. Il faut quand même le dire. L'équité, ça veut dire aussi savoir reconnaître quand je suis bénéficiaire d'un privilège. Mais malheur au roi qui dit que j'ai des privilèges. Malheur au roi qui dit ça. Notre Dieu, c'est un Dieu de justice, c'est un Dieu d'équité. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, dit le Seigneur, car ils seront rassasiés. Il ne faut pas s'y tromper. Dieu est un Dieu d'équité, un Dieu juste, et un Dieu d'amour. Donc, quand il y a une situation injuste et qu'une prière monte vers lui, il l'entend et il la reçoit. Mais encore faut-il que cette prière et cette demande soient justes. Pour Dieu, il n'a pas de privilège. Chercher le royaume de Dieu, ça veut dire aussi savoir aider son prochain quand il est en difficulté. Lutter contre l'injustice, c'est ça aussi. Si tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si ton prochain, tu vois qu'il est en train de trimer, qu'il a beaucoup de mal et que tu ne réagis pas du tout, que tu es indifférent à sa souffrance, tu peux difficilement dire que tu as faim et soif de la justice. Tu as surtout envie de vivre toi-même bien et de jouir de la nourriture et des jeux qui te sont proposés. Chercher le royaume de Dieu, ça veut dire aussi savoir se contenter de ce qu'on a, en sachant que Dieu pourvoit et il nous donne ce dont nous avons vraiment besoin. Ça aussi. Chercher le royaume de Dieu, c'est écouter l'enseignement de Jésus. L'enseignement de Jésus, ce n'est pas un enseignement qui plaît toujours à tout le monde. Priez pour ceux qui vous persécutent. Si on te prend ton manteau, tu donnes aussi ta tunique. Ça, ce n'est pas avec ce genre de slogan qu'on a l'approbation générale de la populace. Ça, c'est clair. Mais ce sont les paroles de Jésus. Ce sont les paroles de Jésus. Chercher le royaume de Dieu, c'est savoir être généreux. Je ne veux pas faire une prédication sur la dîme, mais quand même, rappelons-nous, amenez toutes les dîmes à la maison du trésor et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Est-ce que j'entends cette parole-là? Excusez-moi de le dire. Que personne ne le prenne pour lui, je ne veux pas faire d'attaque personnelle, mais dans le peuple de Dieu, il y a quand même un certain nombre de gens qui sont sacrément radins. Excusez-moi de le dire. Les hommes de Dieu, ceux qui ont un ministère, pourquoi y en a-t-il si peu? Vous savez, si chacun donnait effectivement le dixième de ce qui touche, il n'y aurait aucun problème pour payer les pasteurs. Il n'y aurait aucun problème pour faire des bâtiments, pour etc. Il n'y aurait aucun problème. Combien nous sommes de membres ici à l'Église des Nains? 60. C'est tout. Vous ne faites pas un dessin. 60 membres. 60 divisé par 10, ça fait combien? 6. Payer un pasteur, on n'y arrive pas. 60 divisé par 6, ça fait 10. Vu? Bon, je dis ça, je ne fais pas une polémique. En tout cas, je ne prêche certainement pas pour moi. Moi, je suis bénévole et je suis content d'être comme ça. La question n'est pas là. Mais je demande simplement qu'on réfléchisse un petit peu. Il faut que nous prions. Non pas pour que le royaume de Dieu arrive tout de suite, parce que c'est se faire des illusions, mais que nous devons entendre ce que Jésus me dit aujourd'hui. Ce que Jésus me dit aujourd'hui, c'est que je dois me reprendre sur les choses que je fais mal. Si j'ai des mauvaises voix, il faut que j'entende le reproche qui m'est fait et que je change. Alors, Dieu entendra ma prière et il me bénira. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche, il fera quoi? Vous le demandez. Il m'exaucera des cieux. Il en retirera mon péché et il guérira mon pays. Seigneur, je te prie pour que ce message soit entendu et ce message soit aussi porté ailleurs. Seigneur, je te demande pardon pour tous les Français, pour tous nos concitoyens qui ont mis en l'homme un espoir excessif. Seigneur, je te prie pour notre président. Que j'ai voté pour lui ou pas, ce n'est pas la chose qui soit importante. Il n'est qu'un homme, et parce qu'il est un homme, il ne peut pas tout faire. Et il faut que nous comprenions aussi que tout ce qui se passe dans notre pays ne dépend pas de lui, mais dépend en grande partie de nous et de l'effort que nous sommes prêts à faire. Seigneur, je te prie, Seigneur, que pour que nous entendions cette voix-là, que nous ne reportions pas toujours la responsabilité sur d'autres et que nous prenions en compte notre propre responsabilité. Seigneur, tu m'appelles, Seigneur, aussi, moi aussi, à me repentir de mon péché. Tu m'appelles à aimer mon prochain. Tu m'appelles à regarder autour de moi. Tu m'appelles aussi à faire tout ce que tu as dit dans ta parole et à surtout à ne pas faire le sourd. Seigneur, je te loue pour ta bonté. Je te loue pour ta fidélité. Amen. Il y a un chant que j'ai prévu là-bas, bon, un vieux chant, je ne sais pas si le monde le connaît, c'est « Le royaume de Dieu ».